philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe le 30 septembre 1998 à Saint-Jeudard.
À tous, je dis d'abord un grand bonjour pour recommencer ou commencer une année scolaire au plan métaphysique, au plan éthique. Si je suis en retard, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des Mexicains, ça. Ugh. J'ai pas les dents en tant qu'étant. C'est curieux, hein. Une traduction a condamné la métaphysique. C'est intéressant, du reste, pour voir où en est l'intelligence humaine. Qui ? Le langage n'est qu'un signe. Pour Aristote, on ne condamne jamais sur le langage. On condamne sur les faits réels. Aujourd'hui, on condamne sur les paroles, sur les textes. C'est extraordinaire. C'est intéressant, du reste, de saisir ces choses-là. Et quand quelqu'un vous parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, intérieurement, si vous le connaissez bien, si vous avez une expérience réelle et personnelle avec lui, intérieurement, vous dites, hey, continue si tu veux. Ça, c'est ton expérience. C'est ta bulle. Moi, je connais. Parce que quand quelqu'un vous parle de quelqu'un d'autre, c'est une opinion. Quand vous connaissez quelqu'un, comme un ami, un serviteur, ami. Quand vous le connaissez depuis longtemps, vous voyez la manière dont les autres le connaissent. Depuis 15 jours, depuis un mois, depuis 6 mois, plus la personne est originale, c'est-à-dire plus elle est personne. Ce qu'on va voir, ça n'hésite. Moins on peut la juger sur l'extérieur. Ne jugez pas sur les apparences. Et l'apparence de l'aigle. Il a un bec terrible. Mais c'est pas ça sa définition. L'aigle exprime autre chose. Il a des ailes. Ne s'effinit pas uniquement parce qu'elle accroche dans le bec. Il s'effinit par le vol de l'aigle. Tout à fait autre chose. Quand on connaît quelqu'un et quand on entend parler de lui, prenez ça comme axiome pour votre prudence personnelle. Garder la confiance mutuelle. Il faut ça. Je sais que celui-là ne me jugera jamais sur les apparences. Il me connaît. Quand Aristote dit que l'ami est un autre nous-mêmes, c'est bien ça que ça veut dire. Je reprends toujours le même exemple, moi, du tout petit chat. Pour la première fois, je trouve en face une glace. Parce que d'habitude, les glaçons sont élevés. Hein. Le petit chat ne se voit pas dans la glace. Mais quand il y a une glace qui est par terre, et pour la première fois, le petit chat, il a l'instinct du chat, se trouve en face une glace. Il lève la patte. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit l'autre qui lève la patte. C'est très troublant, ça. Il ouvre une patte. Et l'autre fait la même chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Les apparences. Mais le chat ne fait pas de métier. cette distinction que le philosophe réaliste regarde la réalité. La réalité la plus importante, la plus profonde, la plus grande. Je n'ai pas choisi la réalité au niveau de l'être. Elle m'est donnée. Mais je peux choisir parmi tout ce que je connais celui que la Providence a mis sur ma route. Je le reconnais. Et dans la charité divine, tous ceux que Dieu met sur ma route sont mes amis. C'est le prochain que j'aime comme le Christ l'aime. Vous voyez comment le réalisme de la métaphysique, ce que nous allons essayer de préciser, le réalisme de la métaphysique me permet de saisir que la réalité la plus profonde que j'expérimente directement, c'est l'homme, mon ami, moi-même. La réalité la plus grande que mon intelligence peut saisir et affirmer qu'elle existe, c'est l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Le philosophe découvre ce qui est. Et le philosophe, s'il est vraiment celui qui cherche la vérité et qui l'aime, veut toujours aller plus loin. Il se pose la question, la grande question philosophique. Si je fais de la philosophie en définitive, c'est pour répondre à cette question. Est-ce qu'il existe un être premier qui est mon créateur? La grande question. Ma vie humaine est totalement changée. Dieu existe, mon créateur. Et s'il n'existe pas, alors je comprends que la philosophie, dans la philosophie première, dans la métaphysique, est quelque chose de capital. C'est quelque chose qui permet à mon intelligence d'être ma lumière, pas la lumière, mais ma lumière, pouvoir m'orienter vers celui qui est la source, le créateur de mon âme et ma fin. Ce n'est pas mon ami qui est ma fin. Il est d'une certaine manière un premier moment. Il est un haut plateau. Pour avoir une image, il est un haut plateau. Mais le haut plateau n'est pas encore la fin. Il faut recommencer. Je peux installer une tente sur le haut plateau. Je peux m'arrêter et repartir avec lui. C'est ça l'ami. Je m'arrête et je repars avec vigueur pour découvrir celui qui est ma source. Si le Saint-Père réclame la métaphysique, si l'Église, au nom du Christ, encore à Vatican II, mais l'Esprit Saint est toujours plus que le climat. Pour tous les hommes de bonne volonté, il les éclaire. L'Église, depuis le début, jusque maintenant, a toujours affirmé que l'intelligence humaine est capable, par elle-même, de découvrir l'existence de Dieu. l'Église réclame, même dans les temps difficiles et particulièrement difficiles, l'Église réclame de ceux qui le peuvent, donc des religieux. Parce que les religieux sont des serviteurs, hein, totalement donnés. Ils ont signé un chèque en blanc pour l'Église. Faites-moi ce que vous voudrez. Et elle s'en charge, vous êtes sûr. On a tout donné. On fera ce que Jésus veut. Quand je suis entré chez les Dominicains, on m'aurait dit que j'aurais enseigné la philosophie toute ma vie. Je leur ai dit, hein, je ne vais pas là. Mais je ne regrette rien. Parce qu'au moins, j'ai obéi. Et que je juge qu'enseigner la philosophie, la métaphysique, aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande miséricorde par rapport au mal le plus profond. Et le mal le plus profond, c'est la perversion de l'intelligence. Et la philosophie, philosophique, comprendre la racine des choses, viennent de se disputer et qui de temps en temps s'embrassent. C'est merveilleux. L'éthique, la philosophie de l'art, le facere, la durée, c'est toute notre philosophie humaine. Puis l'aspect politique, concret, ça c'est concret, l'homme, à partir de là il y a une anthropologie. Mais c'est pas suffisant. Le réel s'impose à moi. Je suis né dans un monde qui existait avant moi. Ça, je crois que vous ne le niez pas. Il y avait avant vous vos parents. Et pour le petit enfant qui vient naître, c'est son monde. Un monde maternel. Un monde paternel. Mais petit à petit, ou très vite, il a distingué papa et homme, maman et l'autre. Il y a un monde immanent, la famille, puis un monde extérieur qui me dépasse, qui n'est pas la famille, où il y a peut-être des ennemis, pour faire attention. Tu ne vas pas trop voir ces personnes. C'est pas la famille. On sait pas. Il y a le vivant. Et dans le vivant, il y a le mauvais chien. Qui est un vivant. Qui a de très bonnes dents. Là, il y a le vivant. Puis qu'est-ce qu'il y a en dernier lieu? Mais le monde physique existe. Le monde des vivants existe. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le vivant et le non-vivant? Ils existent. Ils sont. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose de commun, radical? Le philosophe s'intéresse à ce qui est. L'artiste s'intéresse à ce qui peut être transformé. Tout ce qui peut être transformé est intéressant pour l'artiste, pour l'homme travailleur. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas changer. L'être des réalités. Même pas en le tuant, si t'es un vivant. Des réalités restent. Le sang d'Abel crie vengeance. Abel n'est plus, mais le sang d'Abel crie vengeance. Celui qui a tué s'égraisse la trace. Il crie vengeance. L'être métaphysique crie vengeance devant ceux qui croient dominer les vivants et les supprimer comme ils veulent. Il y a dans le vivant quelque chose que je dois respecter, c'est qu'il existe. Que c'est pas moi qui lui permet d'exister. Il a existé avant moi, il a existé indépendamment de moi. Il y a donc en lui quelque chose que je dois respecter. Il est. Ah, c'est une fameuse découverte pour celui qui croit être le maître du monde. On a envie de dire, non monsieur, vous n'êtes pas le maître du monde, parce que le monde a existé avant vous. Vous pouvez le rendre inhabitable. Vous pouvez le brûler, le détruire. Mais il est avant vous, et le sang d'Abel crie vengeance. Voyez, cette découverte de quelque chose est au-delà du vivant. De quelque chose est au-delà de la modalité de l'univers. J'existe. Et je suis capable de porter un jugement sur cet univers, sur le monde physique. Il y a l'esprit. Et l'esprit est capable de saisir la distinction entre ce qui est dans le devenir et qui n'est pas vivant. Le cosmonaute m'apprend qu'il a cherché longuement sur la Lune s'il y avait la possibilité de la vie. Et s'est trouvé devant un monde non vivant. Ça donne froid dans le dos. C'est glacial. Un monde non vivant. Parce que moi, je vis tout le temps dans un monde de vivant. J'écrase des petites bêtes qui sont vivantes. Et quand je vais en auto, longuement, sur une autoroute, je vois tous les massacres de la vie. C'est pas beau, hein? J'ai tué tous ces animaux en étant derrière, tout très douillé. Et je massacre, parce que c'est quand même des petits vivants. Je m'en inquiète pas beaucoup, puisque dès qu'il y a l'arrêt pour l'essence, j'accepte que quelqu'un passe et supprime tout ça. C'est très vite fait. Un enterrement de première classe. Très vite. Il en repart. Et 10 minutes après, il y a le même massacre. C'est extraordinaire. Il y a le monde des vivants. Il y a quelque chose qui est plus radical. Alors, c'est intéressant, hein, de faire l'histoire de la philosophie. Au niveau de la philosophie première, c'est très vite fait. C'est pour ça qu'on va le faire. Parce que ça nous aide. C'est très vite fait. Notre philosophie est dépendante de la philosophie grecque. Il y a deux grands courants. Il y en a un troisième. Maintenant, il ne faut pas oublier. Il y a la Chine. Elle n'a pas été beaucoup influencée par la Grèce. Et l'Inde n'a pas été beaucoup influencée par la Grèce. Il y a l'Europe, dont le berceau, c'est la Grèce. Merleau-Ponty a fait l'encyclopédie des philosophes. L'Inde, la Grèce, source de toute la philosophie européenne, de l'Occident. L'Occident s'enracine dans la Grèce. Alors, en Grèce, les Grecs ont une grâce particulière. Ça a été un foyer de réflexion et d'art très extraordinaire. Alors, la philosophie grecque est une chose qu'on doit regarder. Parce que c'est relativement facile de voir la grande montée avant Platon et Aristote. Oh. Il y a des recherches d'Héraclite qui a affirmé que la première expérience de l'homme, c'est le devenir. Tout change. Le pantareil, tout change. Et ça revient tout le temps, ça. La dernière parole politique de certains hommes politiques bien connus, c'est de dire tout change. C'est une excuse merveilleuse pour montrer qu'on est en retard. Tout change. Parce qu'il y a toujours un petit lièvre qui court plus vite que nous. On est très vite tendu. Politiquement parlant, dès qu'on a le pouvoir, on devient tendu. Curieux. Qu'on n'a pas le pouvoir, c'est les promesses. Alors ça va très vite. Dès qu'on a le pouvoir, tendu. Il n'y a rien de tel pour couler quelqu'un que de lui donner le pouvoir. C'est extraordinaire. Parce que il n'y a plus beaucoup de réalisme en politique. Et puis, le monde est trop intelligent pour rester dans une vraie démocratie. Alors on voit Héraclite, Parménide, les deux premiers Grecs qui, de fait, l'un, c'est le devenir, Pantarei, tout cool, l'autre, c'est le toit. Ah, le toit, c'est la vérité. L'homme est capable d'atteindre la vérité. Ce qui est, ce qui par le fait même ne change pas, il est. Et parce que autour de son être, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment. Il peut changer. La distinction entre être et devenir, Parménide, c'est la première grande distinction grecque. Vous retrouvez ça dans l'Inde. Vous retrouvez ça en Chine. C'est la distinction fondamentale. Et si on veut faire l'histoire du développement de la philosophie en Europe, ce qui est de notre temps, on voit que tout se ramène aux relations entre être et devenir. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le fil conducteur qui nous permet de comprendre les philosophes qui ont respecté le devenir et qui l'ont dépassé et qui comprennent qu'on revient tout le temps au devenir. Mais on saisit quelque chose qui est au-delà du devenir parce que le devenir existe. Il n'est pas que devenir, il existe. On voit des philosophes qui font le partage. Seul le devenir, je l'atteins directement. Donc seul, je peux parler de lui. Des philosophes du devenir. Et puis, les philosophes qui disent le devenir, ça n'a pas d'intérêt. Le philosophe, c'est celui qui cherche la vérité. Or, le devenir, il est maintenant, mais demain ne sera plus. Le petit moustique, il existe, mais dès qu'une auto passe, il n'est plus. La mort est ce qui nie le devenir du vivant. Et donc, la mort nie. autre vivant. La génération qui lutte contre ce danger de mort pour permettre à l'être corruptible de continuer. Alors on voit là, oui, et c'est ça qui est intéressant. Faites-vous pour vous-même une petite histoire de la philosophie européenne. Grande carte qui est de la morale. Vous verrez les sommets. Le ski de printemps. En Suisse, on fait le ski de printemps. Tous les sommets, quand déjà les premières neiges qu'ils ont fondues. Il n'y a plus que le ski de printemps. On fait le tour de la Suisse. Dans les sommets. Quels sont les sommets de la philosophie? Les sommets de la pensée humaine. Quand vous regardez un philosophe, regardez jusqu'où il a atteint les dernières marches qu'il a faites, où il a dressé sa tente. L'a-t-il dressé dans le fatigué humain, dans l'édifice humain? J'ai fait le Parthénon. Et je fixe ma tente là. C'est déjà pas mal. Hein? Parce que ça dure déjà depuis assez longtemps. J'ai fait une œuvre d'art extraordinaire. Vous voyez, l'art lutte contre le corruptible. On sait que l'œuvre d'art va vivre plus longtemps que l'artiste. Et c'est pour ça que l'artiste se venge contre son œuvre. Quelquefois, en Picasso, il y a ça. C'est terrible. Mon œuvre va durer plus longtemps que moi. Alors on projette ça sur Dieu. On dit Dieu est un artiste. Je suis son œuvre. C'est normal que j'en parle plus. Moi, je continue d'exister. Et l'homme continue d'exister sans Dieu. C'est tout simplement la projection de ce qu'on voit au point de vue artistique. L'œuvre continue d'exister. Le Parthénon existe. On doit faire grande attention. Il est en train de se détériorer. Il dit d'aller le voir parce qu'il est en train de se détériorer. Pourquoi? Parce que l'air qu'on vit n'est plus naturel. Il est vicié. Et la brique crie. À Nazareth, jusque-là, la grotte où Marie avait reçu l'Annonciation existait. Elle commence à se détériorer. La pierre crie. Il est temps. Parce que l'homme a créé un univers qui porte le cancer. L'harmonie n'y est plus. Le cancer, c'est la désharmonie. Et ça va jusque dans l'air. Jusque-là, ça allait, parce que l'homme ne dominait pas. Maintenant, l'homme domine. Ça, c'est intéressant au point de vue philosophique. Hein. Comment se fait-il qu'il domine? Et comment domine-t-il? Il domine par sa puissance. Et la puissance de l'homme, elle se manifeste par la négation. Parce que la négation de l'homme peut être totale, tandis que l'affirmation de l'homme n'est jamais totale. Quand l'homme affirme, il reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est avant lui. Quand l'homme nie, il s'affirme lui-même. Au fond, il n'y a que moi. Je dis le reste. Alors, comprenons bien la naissance de cette philosophie première. c'est quand l'homme est un peu dominateur, qu'il veut faire une synthèse pour dominer. Mais quand l'intelligence de l'homme est suffisamment contemplative, il ne fait plus de synthèse, il la dépasse. Et chaque dialogue de Platon exprime quelque chose d'un certain absolu. Mais qu'est-ce qui domine dans toutes ces œuvres, si je regarde attentivement Platon, c'est que pour Platon, on contemple nos propres idées et non pas le réel. C'est le bien en soi que l'homme est capable de regarder. C'est l'absolu dans sa pensée lié à l'imaginaire. C'est cela qui est son absolu. Il domine. Et dans Platon, Platon a eu comme élève un drôle de disciple. Un disciple comme le petit David en face de Goliath. Un disciple qui l'a critiqué radicalement. Ce que Platon a fait, c'est très beau. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. C'est Platon. Tout ce que Platon a fait sort de l'usine Platon, celle des idées. N'existe que dans la contemplation de Platon et qui n'existe pas dans la réalité. Dès que Platon a voulu se mettre dans la réalité politique, il a échoué. Alors, il y a des livres critiques où on voit le jeune Aristote. On ne sait pas c'est qui, hein. C'est symbolique, le jeune Aristote. Oui, on a essayé de chercher, mais on a surtout nié que ça puisse être Aristote. C'est pas étonnant, puisque depuis Aristote, depuis Platon, abandonner Platon et chercher la vérité. C'est ça, Aristote. Il s'appuie sur Platon, c'est évident. 20 ans disciple de Platon. C'est quelque chose, hein. Il n'a jamais accepté les idées. Du moins, on n'a pas le témoignage. Ça, c'est une force de l'intelligence. De voir que ce qui est intéressant, c'est la vérité. Et la vérité, c'est lorsque mon intelligence est conforme au réel. C'est le réel qui me conduit. Ce n'est pas l'imaginaire. Aristote, quand il parle de la fantasia dans le De Anima, il dit que la chose la plus difficile pour nous, c'est de discerner le réel. grandes discussions des psychanalystes. Dès que vous discutez avec des psychanalystes, ils reviennent toujours à cette question. Comment discerner le réel et l'imaginaire? Et c'est la grande question d'Aristote face à Platon. Construit sur les idées. Et les idées, ça vient de lui. Les idées sont innées, elles viennent de lui. On ne peut pas les discuter. Elles sont fondamentales et premières. Oui. Les deux grands, et je veux dire ça pour toute la philosophie européenne, les deux grands, c'est Platon et Aristote. C'est pour ça qu'on y revient tout le temps. Analogue jusqu'à Husserl, le grand philosophe de la fémologie. Et la fémologie joue aujourd'hui le rôle de philosophie première et de métaphysique. Et Husserl, c'est un matheux. Il a fait une thèse de mathématiques que je n'ai pas lue. J'ai demandé notre cher ami, le président des Amis de Saint-Jean, laïque, professeur de mathématiques, doyen de la faculté de mathématiques, de lire cette thèse en matheux. Puis, les mathématiques ne nourrissaient pas suffisamment Husserl. Il s'est mis à faire une méta-mathématique. Et c'est la fémologie. Mais c'est toujours la métaphysique, la philosophie première, qui va commander tout. Et les mathématiques seront le tremplin au service de